Motorcycle mama, won't you lay your big spike down?
MotoZef, une émission radio où on parle moto.
Motorcycle mama, won't you lay your big spike down?
Aujourd'hui, portrait d'un motard par Philippe Oppé.
Always get in trouble when you bring it around. Motorcycle mama, won't you lay it down?
Bonjour, je suis accueilli aujourd'hui par Laurent et Isabelle, qui ont la gentillesse de m'accueillir à l'occasion d'une préparation de voyage. À cette occasion, j'ai le plaisir de tirer le portrait de...
Christian.
Christian, pour te situer, t'as pas obligé de donner ton âge, mais ta décennie, on va dire.
Moi, j'ai 58 ans.
58 ans. Ok, une activité professionnelle.
Oui, je suis chercheur au CNRS, principalement.
Tu pratiques la moto depuis combien de temps? Ton premier permis, par exemple?
Alors, mon premier permis, c'est un permis 125, à l'âge de 16 ans.
16 ans?
16 ans, oui.
D'accord.
Et à l'occasion de petits boulots l'été, j'ai pu me payer comme ça ma première 125 pour me faire la main.
Première, c'est d'une 125. T'as eu l'étape mobilette avant?
Alors, bien sûr, j'ai eu l'étape mobilette. Et puis après, j'ai même eu une petite étape intermédiaire où j'empruntais en douceur ou sans qu'il le sache la 175 Peugeot de mon grand frère, qui était une super bécane. Mais normalement, j'ai pas le droit puisque j'avais pas encore le permis.
Et la mobilette, tu te souviens?
Ouais, c'était un caddie.
Caddie?
Eh ouais.
T'es le deuxième.
Eh bon, d'accord.
Pour monter un club caddie.
Eh oui.
Pour te situer à peu près, tu t'habites dans quelle région, quelle ville, si tu veux bien?
J'habite à Orléans.
Tu habites Orléans, t'es toujours habité?
Non, en fait, moi, je suis originaire de la région d'Angers, mais bon, je suis venu pour le travail habiter sur la région d'Orléans.
D'accord. Pour te situer dans ton environnement, est-ce que tu fréquentes des gens localement, un motoclub, au niveau d'Orléans? Est-ce que t'es...
Alors, c'est pas un motoclub, mais on a une bande d'amis, bon, entre autres sur Blois, avec lequel on fait beaucoup de sorties, et qui sont des amis depuis de longues dates, et donc on fait au moins une ou deux sorties par an ensemble.
Entre la 125 et aujourd'hui, en fait, tu as eu combien de motos en tout?
Oh, peut-être une petite dizaine, bon, je ne me souviens même pas de toutes.
D'accord.
Je me souviens surtout des premières, parce que bon, c'est celle qui marque le plus.
Okay.
Après la 125, j'ai eu une 500 Suzuki GT, donc un 2 temps, donc ça c'était assez exceptionnel. Après j'ai eu une 3,5 RDLC, toujours 2 temps, et puis après on est passé à des 4 temps qui m'ont laissé un peu moins de souvenirs. Puis là, après j'ai eu une période où, en fin de compte, je n'ai pas pratiqué la moto, parce que bon, j'ai eu les enfants, et donc c'est des choses... On met une petite parenthèse dans la vie de motard. Et j'ai repris la moto après, vers 40 ans, où là j'ai franchi le pas des BM. Et j'ai eu une première série R, c'était une version roadster du 1150. Mm-hmm. Puis après j'ai adopté les GS, donc là je suis sur des GS.
D'accord, t'as fait beaucoup de kilomètres avec ces...
Ouais, là par contre, à partir du moment où j'ai eu ces motos là, récemment, donc là je fais des kilomètres, ouais.
Tu roules en moto, en duo, en groupe, sur circuit?
Alors, principalement, donc pas de circuit. J'en ai fait dans ma jeunesse, mais j'en fais plus. Et donc là, maintenant, c'est en groupe, principalement, et en duo.
D'accord. Tu ne vas pas au travail avec?
Alors, je ne vais pas au travail avec, parce qu'en fin de compte, j'habite à proximité de mon travail, donc c'est pas rentable de sortir la moto.
Pas besoin.
Pas besoin, malheureusement.
D'accord. Est-ce que tu participes régulièrement ou ponctuellement à des manifestations de type course, manifestations revendicatives
Alors oui, ça m'arrive, oui, de temps en temps.
Il n'y a pas de choses que tu fais régulièrement, ou il y a des... Je sais pas, à Blois, par exemple, il se pratique un truc au moment de Noël pour donner des...
Alors ça, on n'a pas... À Orléans, non, ça, j'ai pas participé encore. Il y a pourtant les Pères Noël, oui, effectivement. Ouais.
Eh bien, merci. Nous allons continuer après un peu de musique pour parler cette fois de ton passé de motard.
And I'll to New Orleans. But I won't tell about heartache, and I won't tell about pain, and I won't tell about the times I had you sleep out in the rain. Well, I'm going to El Paso to get my mojo fresh. Then I'll back my bags and head out for the
Nous revoilà cette fois pour parler de ton passé de motard. C'était mieux qu'aujourd'hui ?
Ah non, en fin de compte, non, non. Bon, on a des bons souvenirs d'avant, mais non, maintenant c'est bien, parce que maintenant on a l'occasion de faire des grands voyages, et ça c'est quand même bien.
C'est plus confortable.
Ouais.
Est-ce que tu te souviens de la première personne, un oncle, un copain, le beau-frère, qui t'a donné envie de faire la moto là,
Mes premiers émois, en fin de compte, c'est mes frères, hein, parce que bon, j'ai une famille où on avait plusieurs frères et sœurs, mais donc j'avais des frangins qui étaient tous sur des deux roues plus ou moins performants, et c'est eux qui m'ont donné la passion de la moto. Oui.
D'accord. Tes frangins ont continué ?
Non, ils m'ont arrêté.
T'es le seul
à avoir... Je suis le seul à avoir persisté.
D'accord. On va parler voyage un peu plus d'actualité tout à l'heure, mais jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait comme type de voyage en moto ?
Alors principalement, on a fait pas mal de voyages, mais on a commencé par les voyages comme la Croatie, l'Italie, Ensuite, bon, on a fait principalement l'Europe, l'Autriche, la Suisse, après dans les îles britanniques, on a fait l'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre aussi. Mais bon, le dernier voyage qu'on a fait l'an dernier, c'est ce qui était vraiment un peu plus dépaysant, c'est le Maroc. Donc là, je dis un peu plus dépaysant parce que bon, jusqu'alors, on faisait pratiquement des routes. Et là, au Maroc, donc, on a fait quand même une partie de piste qui était quand même assez intéressante.
D'accord. Vous êtes parti en groupe ?
Alors, on est parti avec deux couples, simplement, avec Isabelle et Laurent qui nous accueillent aujourd'hui. Et donc, on est parti à deux motos. Donc, on voyage qu'en duo. Et donc, ça, c'est un peu la particularité sur ces voyages un peu au long cours, quoi.
Est-ce que tu roules... Non, tu as dit que tu ne roulais pas avec des clubs, donc c'est soit avec un groupe, des couples ou...
Oui, après, ce qu'on a fait, on a fait comme l'occasion de faire deux, trois activités au niveau, par exemple, d'un système qui s'appelle Cocorico Rando. Ce sont des randonnées un peu tout-terrain qui sont organisées plusieurs fois dans l'année. Donc, ils sont organisés par un club, comme un genre de club qui organise ça au niveau français, quoi.
Est-ce qu'autrement, tu as eu déjà des accidents en moto
Alors,
en dehors des accidents de parking, on n'en parlera pas, mais...
Non, j'ai pas eu d'accident, franchement, parler de moto. J'ai eu un accident une fois, mais c'était pas en moto. On avait une particularité, parce qu'on a toute une bande de copains qui est dure encore, mais à l'époque, on était en école d'ingénieurs, il y avait une pratique qui s'occupait, c'était les courses de Solex.
Ah, c'est du deux roues, quand
même. C'est du deux roues, et on avait des courses avec des Solex un peu améliorées. Et j'ai eu un accident une fois, où ça m'a laissé une trace quand même sur une cuisse, et j'ai encore la marque, oui.
Ah.
Mais c'est la seule trace de guerre.
D'accord. Des pannes, de grosses pannes, je veux dire, sur la route.
Non.
Obligé de, non. De revenir avec un autre moyen de locomotion.
Non, ça c'est des choses que j'ai pas connues.
Merci, nous allons continuer avec un peu de musique pour parler cette fois de ton futur de motard.
Like it's all over. There's another round for you.
Alors on va parler voyage directement. J'imagine que comme les motos, je les ai vues tout à l'heure, sont sur un plateau et vont partir. Je ne sais pas si tu as des projets d'ici là en moto, puisque tu n'en as plus.
J'en ai plus, donc on va être obligé d'attendre donc fin décembre pour pouvoir les retrouver.
Tu vas vivre donc une période d'abstinence ?
D'abstinence complète, oui.
Ok, pas trop d'émotions à voir les motos partir. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette réception de matériel ? Comment ça s'est passé au niveau du transporteur ?
Bon, alors le transport, bon, c'était prévu, donc il est, normalement le but c'est de rassembler l'ensemble des motos sur Varsovie, puisqu'en fin de compte le vrai transport va s'effectuer à partir de Varsovie, où les motos vont être intégrées dans des cadres métalliques qui vont permettre surtout ensuite de les superposer dans un conteneur. Donc le vrai travail qui va être fait sur les motos, c'est au niveau de Varsovie, où là le transporteur Motobird, pour ne pas les citer, est basé. Et donc c'est là qu'ils vont faire la partie confinement dans des racks. Mais bon, soit on avait le choix effectivement d'emmener les motos directement à Varsovie pour qu'elles soient réceptionnées là-bas, soit de prendre un transporteur qui dépend du même organisme. Donc il est venu les chercher ici à Blois, là, aujourd'hui.
D'accord.
Donc on était un peu surpris parce qu'on s'attendait à avoir un 20 mètres cubes dans lequel nos motos seraient au chaud pour le transport. Et on s'est aperçu en bas de côte qu'il est venu avec un camion et une remorque. Mais bon, ça fait partie du voyage.
Voilà. Donc après c'est bateau, après c'est alors, vous pour vous l'avion.
Alors pour nous l'avion, pour les motos bateau, donc de Varsovie elles seront ensuite acheminées donc déjà dans leur rack à bord du conteneur à Hambourg, où là vont prendre le bateau de Hambourg qui ensuite les emmènera à Valparaiso au Chili. Et nous on les récupérera là-bas, donc on arrive au Chili, on va les récupérer à Valparaiso ensuite.
D'accord. Pas trop peur de laisser partir sa moto comme ça ?
Non, bon, ça fait partie aussi du voyage.
J'imagine qu'il y a des assurances, des couvertures.
Bon, le transporteur a une assurance, oui.
D'accord. Qui t'accompagnera dans ce voyage ?
Donc là, on est trois couples, hein, en fait. Donc il y a Laurent et Isabelle, Guy et Agnès, et moi et Christine.
D'accord. Donc Christine étant ta fidèle passagère.
Voilà, c'est ça, ma fidèle passagère, et qui, j'ai une chance assez inouïe, qui adore la moto, et même en tant que passagère.
Ok, donc là-bas, tu vas utiliser ta moto, donc qui est une GS.
C'est une GS, oui. Voilà. C'est une belle GS.
Tu as prévu, je sais pas, une bonne révision, un équipement spécifique
Alors, oui, elle est assez... Donc, j'ai fait une révision un peu globale juste avant le départ. Sinon, j'ai fait quelques modifications, enfin, quelques équipements un peu spécifiques, comme les pare-cylindres, ça c'est assez classique. Un sabot de protection un peu plus englobant. Et sinon, pas grand-chose, des grilles pour les réservoirs, pour les radiateurs et une petite plaque devant le feu, les phares, mais bon, pas de grosses modifications.
Les pneus, oui.
Les pneus, oui, là on est en pneus à tétine.
C'est-à-dire en fait pour le...
Pour le tout-terrain.
Des pneus qui accrochent.
Qui accrochent bien, parce que là on a quand même une grosse partie du trajet qui va être en piste.
Au niveau de l'organisation... Toi-même ou ta femme, vous êtes chargé d'une chose en particulier au niveau de ce voyage ou...
Oui, alors Christine étant infirmière, bon, elle s'est chargée de la partie trousse, de secours.
Donc c'est toi qui trimballes la pharmacie.
Et je trimballe la pharmacie. Donc
c'est important une pharmacie
C'est important.
Christine va nous en parler tout à l'heure, mais en termes de volume
En termes de volume, oui, ça prend une petite place comme dans le top case, donc ça, ça fait partie un peu des contraintes. Ouais, mais...
Qu'est-ce qu'on peut avoir comme type de bobo
Bon, globalement, c'est des problèmes plutôt intestinaux. Hein. Globalement, il y a pas mal de soins un peu là-dessus. Bon, on va rencontrer un autre problème qui va être le problème sans doute de l'altitude. Parce que là, on a une grosse partie du trajet qui est dans la cordillère des Andes quand même, qui est située entre 3500 et 5000. Donc là, on peut être sujet momentanément, par période, à des problèmes du mal de l'altitude.
Mal d'altitude, d'accord. Ouais, donc beaucoup de cols, alors
On va faire des cols, puis il y a surtout un plateau hein, qui est à très haute altitude, et on va rester assez longtemps sur le plateau. Quoi.
Gros dénivelé, puisqu'a priori, oui. Si vous récupérez le bateau, c'est vous partez du bord de la mer,
voilà, tout à fait.
Et que vous revenez. Donc tout ça fait, comment on dit, une amplitude de combien
on peut aller à 5000. Puisque,
5000, puis plusieurs fois. Quoi,
donc, ouais, on a 5002 au max sur le plateau.
Ok, au niveau de ce voyage, vous êtes suivi comment, au niveau de votre famille, des copains
Bon, là, c'est une chose encore qu'on n'a encore pas bien planifiée, parce que bon, on s'est occupé déjà du transport des motos et tout ça, donc on va s'en occuper maintenant. Bon, on pense peut-être mettre en place un blog ou un groupe Facebook ou des choses comme ça, quoi.
D'accord. Pour vous repérer là-bas au niveau du voyage, vous utilisez des bonnes vieilles cartes, des roadbooks, des GPS des...
Alors, on a les cartes papier qui vont nous accompagner, mais on a surtout des GPS. Avec Laurent, on est un peu branché
Nouvelle techno.
Nouvelle techno et GPS, et on aime bien manipuler tout ça.
Donc chacun son GPS.
On a chacun le sien, et qui sont de la même famille, même identique, et on arrive à faire de la carto et se compléter l'un et l'autre.
Je te remercie, on va parler juste après une pause musicale de tes rêves de motard.
I saw in a dream, but it wasn't true. Through the smoke and fire of the exhaust fumes, she just laughed and loved me till I was no use. And I'll never fall in love again. She's a motorcycle that I can't ride. She's a precious jewel that I can't buy. She's a scene I'm playing in which I die. And I'll never fall in love again. I'll never play to win, is what she said. And poured a little cocaine in my head. She's a fucking Picasso in bed. And I'll never fall in love again.
Ces rêves de motard, par exemple, à quel type de véhicule te fait rêver qui n'existe pas aujourd'hui? Alors, je vais te dire, par exemple, véhicule électrique, est-ce que ça, c'est des choses qui te font rêver?
Ça pourrait me faire rêver, oui, ça c'est quelque chose qui me plairait assez bien. Moi, j'aimerais bien faire effectivement un long trip avec un véhicule électrique et une autonomie quand même à peu près équivalente à ce qu'on a actuellement, mais ça serait vraiment très intéressant.
Oui. Est-ce qu'il n'est pas encore le cas non plus en moto pour l'instant?
C'est pas tout à fait le cas. Bon, il y a déjà eu des performances. Il y a une jeune fille qui a fait avec une Zéro, a fait un tour d'Europe au moins déjà avec une Zéro, donc ce qui est pas mal avec une autonomie de 200 km, c'est bien quand même.
Au niveau des véhicules, on a vu, au niveau des équipements, donc tout ce qui tourne autour de la moto, c'est pas un casque plus léger,
ouais,
la climatisation dans les vêtements.
Ouais, ça je suis pas trop. Mais c'est effectivement des casques plus légers, mieux ventilés, surtout qu'ils soient moins contraints à la buée et à la pluie. Enfin, ouais. Un petit système qui nous permet d'avoir des visières toujours nickel, ça serait super.
Je crois qu'ils font des visières Polaroid maintenant.
Ça serait...
Ouais. Et le bruit aussi, peut-être.
Le bruit, bien sûr.
Ouais, c'est un point j'ai l'impression que les constructeurs oublient un peu le bruit qu'on entend à l'intérieur d'une moto. Au niveau des services, est-ce qu'il y a des services, on en a parlé avec Guy tout à l'heure, comme le BlaBlaCar Moto, la location, est-ce qu'il y a d'autres services que tu voudrais voir
Ce qui pourrait, justement, ça pourrait être un peu dans le même système que BlaBlaCar Moto, mais aussi le transport de moto. Transporter une moto d'un point à un autre, ça pourrait être très bien.
Ouais, pour éviter de rouler bêtement.
Bêtement sur des trajets, des fois, qui ne sont pas si intéressants que ça. Quoi. Mm-hmm. Ou un peu le trajet rail, ils l'ont fait à un moment avec le rail, le transport des motos, mais pour l'instant, c'est très, très discret. Il y a peu de transport possible.
On va parler maintenant un petit peu législation. par exemple au niveau du code de la route, qu'est-ce que tu penses des nouvelles lois, donc je rappelle pour les trottinettes, puisque ce sont aussi des deux roues motorisées, qu'on va pouvoir conduire à partir de 12 ans, alors plus à deux, parce qu'avant on pouvait monter à deux, et ils vont être obligés de rouler sur la route, voilà, et ils vont être limités à 25 km/h. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux usagers de la route en deux roues motorisées?
Oui, ça va faire une petite partie encore, on peut dire, d'obstacles supplémentaires, enfin une zone de vigilance supplémentaire à avoir à bord de moto. Ouais. Non, ce qui est, je pense que les systèmes qui pourraient être mis en place, principalement au titre du motard, c'est tout ce qui est barrière de sécurité, tout ça. Ils pourraient envisager quand même des systèmes un peu moins dangereux, accompagner un peu plus les...
Donc rappelons-le, hein, aujourd'hui, les rails de sécurité sont sur une seule bande.
Sur une seule bande, on met deux déjà, ça serait bien.
Ouais, parce qu'en fait, en dessous de la bande, voilà, c'est des petits poteaux métalliques.
Des petits poteaux qui peuvent décapiter.
Au niveau mécanique, comment tu te débrouilles? Tu fais tout toi-même, une partie, tu fais appel à un concessionnaire, des copains? Est-ce que tu fais toi-même de la mécanique pour d'autres?
Je fais moi-même la mécanique pour moi, mais pas entièrement. Il y a une grosse partie que je fais entretenir quand même en concession. Mais bon, je suis en mesure quand même d'intervenir sur la plupart partie des éléments de ma moto. Bon, il y a la partie électronique qui devient de plus en plus délicate maintenant à gérer, mais bon, c'est la vraie partie mécanique, sinon ça me fait pas peur.
Je vais revenir alors sur la sécurité, mais cette fois sur la partie infrastructure. Est-ce que toi, comme moi, les ronds-points mouillés à côté des stations-service,
oui,
te font peur? Est-ce que,
oui,
tu as d'autres endroits, toi?
Bon, bien sûr, les passages piétons... mais les ronds-points en général, hein, parce que même indépendamment de la station-service, les ronds-points, je me méfie toujours, parce que des fois, il y a des camions qui déversent un peu de trop plein de carburant, et ça, c'est catastrophique. Après, bon, les routes gravillonnées, un peu trop récentes, ça, c'est un peu des cauchemars aussi, c'est des choses qu'on n'aime pas.
Ok, pour conclure, ton pire souvenir et ton meilleur souvenir en moto, c'est pas préparé, alors t'as le droit à un petit blanc.
Là, j'ai un petit blanc, parce que le pire souvenir...
Tu disais les accidents à part le Solex.
Là, j'en ai pas eu beaucoup. Donc,
pas de panne.
Pas de panne majeure. Donc,
que des bons souvenirs. Tu peux
zapper. Un pire souvenir, si on pourrait. C'était pas catastrophique, mais un passage justement au Maroc. On a rencontré des difficultés quand même par des endroits parce qu'on était sur des pistes et tout ça. Et il y a eu pas mal d'intempéries. Donc là, les pistes devenaient vraiment un peu catastrophiques. Donc là, c'était pas très agréable. On était trempés en plus. Donc ça, c'était pas terrible.
Et c'est les passages difficiles qui laissent les souvenirs, en fait.
Mais voilà, donc ça laisse des souvenirs quand même. Un bon souvenir, bon, c'est voyage, hein, la proximité qu'on a aussi avec la population, donc ça c'est quand même très intéressant. Ça, je trouve que c'est l'intérêt du voyage en moto, quoi.
Donc les voyages forment la jeunesse?
Oui, la maintiennent en tous les cas, nous maintiennent.
Ok. Merci Christian d'avoir partagé ton expérience, tes attentes, tes rêves. On se retrouve un de ces samedis à 13h30. Pour vous suivre dans votre voyage, si possible aussi à votre retour, pour partager cette nouvelle expérience. Merci, à bientôt.
Merci.